Et c'est là qu'on s'en va ce matin avec le message que nous, qui va lancer le thème du mois de décembre, c'est-à-dire le Dieu qui... Oh! Peux-tu mettre l'autre page? C'est supposé d'être Dieu révèle son évangile. On est rendu au mois de décembre.
Amen.
Good. Dieu révèle son évangile et on va regarder comment, avec le message qu'on considère aujourd'hui, Dieu révèle son évangile à son peuple. On a déjà lu l'ensemble du chapitre 34 et je veux simplement lire les trois premiers versets parce qu'on a déjà lu l'ensemble puis je vais revenir sur les versets plus spécifiquement à travers le message. Mais un peu savoir de quoi qu'on parle. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David, son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. On va prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes ce matin, avec ta parole, unis ensemble à tes pieds, on veut faire silence dans nos cœurs, devant toi, contempler ta majesté, ta grandeur, qui tu es réellement. Seigneur, les idoles ont été brisées dans le texte qu'on a lu. Brise ces idoles dans nos cœurs, ce qu'on peut s'imaginer de toi qui n'est pas selon ta parole. Révèle-toi à nous tel que tu es et que nous tombions devant ta face humblement, mais aussi avec la joie que tu es le Dieu de toute grâce qui fait miséricorde. Et Seigneur, c'est à toi qu'on regarde. Merci que tu es celui qui fait le vrai travail ici ce matin, par ta présence, par ton esprit. C'est toi qui enseignes, qui convainc, qui fait ce qui compte vraiment. Seigneur, on s'en remet entre tes mains. Accomplis ton plan, tes desseins, avec chacun de nous et avec nous ensemble, comme Église. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Dieu révèle son évangile à son peuple et je voudrais vraiment ici souligner, bon, ceux qui ne sont pas là depuis très longtemps, ça va vous donner un peu un aperçu de l'histoire de notre Église à travers les différentes années. Parce que c'est incroyable comment ce chapitre, il y a tellement de parallèles à faire avec l'histoire de l'Église baptiste de Saint-Augustin, puis je vais vous expliquer pourquoi à l'instant même. Mais pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, vous allez voir que quand on regarde ça, on dit « Hein, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Puis c'est rafraîchissant de voir ça, la bonté de Dieu. Vous savez, on vient de lire au verset 3 que le roi qui était un roi qui marchait dans les voies de l'Éternel, faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, a eu à cœur, s'est mis à rechercher l'Éternel, son Dieu. Et je crois que pour nous, en tant qu'Église, ça fait quand même un bon bout de temps que le Seigneur nous a mis à cœur de le rechercher, lui. Ouais. Ça fait quand même une couple d'années. Et je dirais que la première phase de cette recherche a été marquée du fait que on n'était pas tout à fait... Non, on n'est jamais tout à fait rendu, personne n'est accompli, on est toujours en train d'apprendre. La vie chrétienne, c'est une école et on apprend toujours. Mais je dirais qu'on était un peu comme à la phase réforme, parce que dans les versets 4 à 13 qu'on a déjà vu, il y a eu la réparation, il a brisé les idoles, il y a eu la réparation du temple et tout ça. Et pour nous, dans l'histoire de notre église, il y a eu un point tournant. Ceux qui étaient là, vous vous rappelez, quand on a fait les rénovations, on a acheté un bâtiment, on a fait des rénovations, et on a appris comment Jéhovah Jiré, comment Dieu pourvoit. C'était pas possible du début à la fin. C'était pas possible de l'acheter, c'était pas possible de le rénover. Il n'y avait rien de possible. Puis vraiment, pour notre église, ça a été un point tournant. On a vu la fidélité de Dieu pour répondre aux prières de son peuple. Vous vous rappelez ceux qui étaient là, comment l'école du dimanche est devenue l'école de la prière, puis qu'à tous les besoins qu'on avait, on les présentait devant Dieu, puis de voir la main de Dieu qui pourvoyait à chaque étape, au bon moment, pour chaque chose. Ça a été vraiment extraordinaire. Mais il y a eu une autre étape, un autre point tournant, si je peux dire, ce matin. Lorsque le Seigneur nous a révélé, à nous, son peuple, son évangile d'une façon bien spéciale, un peu comme ici, comme ils ont redécouvert la loi. C'est pas que le peuple de Dieu était étranger à la loi puis qu'il la connaissait pas, mais là ils ont trouvé le livre et ça l'a fait vraiment un effet tout à fait percutant sur le peuple de Dieu. Je dirais que pour nous en tant qu'église, c'est depuis la dernière année et demie à peu près, grosso modo, le Seigneur nous a ouvert les yeux sur la deuxième moitié de l'évangile. Non seulement on est tellement reconnaissant que Christ est mort pour nos péchés et que on a la vie éternelle par lui, c'est la première moitié de l'évangile, c'est la porte d'entrée, mais la deuxième, c'est l'évangile aux saints, que nous sommes morts avec Christ et vivants en lui. Et Dieu nous a ouvert les yeux sur ces vérités précieuses. Et on a comme redécouvert la loi. Et c'est pas fini, le parallèle, non seulement on le voit avec ces deux choses que je viens de souligner, mais la manière avec laquelle le chapitre se termine, il y a quelque chose d'important à souligner avec ce que Josias, ce bon roi, vous savez, Josias est un bon roi, et il est même un type de Christ, hein, qui restaure, qui, dans les temps les pires, amène l'espoir. Hein? Le roi Josias est un type de Christ en ce sens-là. Mais là, si on vient à Josias en tant que tel, dans son zèle pour l'Éternel, dans sa bonne volonté, c'est un bon roi, il a fait des bonnes choses en tant que leader. Amen. Il a présenté la parole, il a proclamé la parole, il a fait des réformes selon la parole, il a amené un retour à la parole, mais, et il y a un mais, il a fait la grave erreur de lui. Au verset 32, on dit que c'est lui. Il a fait rentrer le peuple dans l'alliance. Ce n'était pas l'initiative du peuple. Il les a poussés à ça, puis on voit dans le verset 32 qu'il les a obligés à servir l'Éternel. Obligés. Il y a une grande leçon pour notre message ici ce matin. On va développer ça dans le message, mais vous avez déjà entendu l'expression « on peut mener un cheval au ruisseau, mais on ne peut pas le forcer à boire ». Et la question, c'est pourquoi c'est si important, ce que je viens de souligner là, avec Josias qui a contraint comme ça le peuple à rentrer dans l'alliance et à obéir à l'Éternel. Ben parce que quand on considère le contexte, puis je l'ai déjà souligné, ceux qui sont ici exposés au ministère de la parole de l'Église depuis un bon bout de temps, c'est quelque chose que j'ai déjà souligné, mais c'est important à considérer. Le contexte historique de l'histoire de Josias tel qu'on l'a lu est à comprendre avec la lumière que le Saint-Esprit jette à travers le prophète Jérémie. Et quand on regarde, puis là on va y revenir le plus en détail dans le message, mais lorsqu'on considère la révélation de Dieu par le prophète Jérémie, on comprend qu'il y avait des graves, des grandes et des sérieuses lacunes, des problèmes spirituels graves chez le peuple que le prophète Jérémie dénonce en citant, on voit, sous le règne du roi Josias. Puis là, ce qu'il leur dit, c'est pas très flatteur, on va le voir dans un instant. Donc, c'est pour ça que c'était si grave en conséquence, il y avait tellement de conséquences pour Josias de contraindre le peuple comme il l'a fait à rentrer dans l'alliance, à obéir à l'Éternel. Voici pourquoi. Parce que ça l'a pas amené à son plein développement le processus de conviction que le Seigneur faisait à travers la découverte de la loi, mais aussi à travers la prédication de son prophète Jérémie. Autrement dit, Josias, avec toutes les bonnes intentions qu'il avait, a court-circuité la révélation de l'Évangile à son peuple. Parce qu'il les a forcés, il les a contraints. On va voir plus en détail ce qu'en était. Il ne faut pas tout mettre la faute sur Josias. Le peuple, on va le voir, n'avait pas des bonnes dispositions. Mais bon, notre cher Josias a pris les choses entre ses mains au lieu de laisser Dieu terminer ce que lui avait commencé. C'est ça le problème. Là aussi, il y a des parallèles à faire avec notre Église. Puis on va voir ça dans le message, mais juste pour mentionner, c'est pour ça que en ce moment, je veux avancer avec crainte et tremblement, en ne m'appuyant aucunement sur ma propre sagesse, mais en reconnaissant l'Éternel dans toutes ses voies avec ce qu'il fait en ce moment, parce que je crois que le Seigneur a commencé une œuvre, que lui va terminer. Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est lui qui l'a commencé, c'est lui qui va la terminer. Et que ça reste de même. Donc, on va considérer ensemble simplement trois vérités. Avec il y a une typologie dans notre texte de ce matin. Trois vérités précieuses à considérer par rapport à Dieu qui révèle son évangile à son peuple. D'abord, et là, on ne va pas tout relire les versets, parce que on l'a lu, on en a l'idée, mais il y a les rénovations du temple. Et ça, je veux faire un parallèle avec le corps de Christ. Vous savez, le temple était une ombre de celui qui était plus grand que le temple. Et ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là, écoutez ce que ça dit dans Jean, chapitre 2. Jésus répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il fallut 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, c'était une ombre qui est accomplie en Jésus-Christ. Ce temple était l'ombre de celui qui habite au milieu de son peuple. C'est un temple fait de main d'homme. Christ est Dieu fait homme. Il est le vrai temple. Il est la vraie façon de s'approcher par Dieu. La réalité, l'ombre était avec le temple. La réalité est en Jésus-Christ. Et tout dans notre texte pointe à Jésus-Christ, comme toute la Bible d'ailleurs. Ça va être le thème de l'année 2022, Dieu voulant. Mais le contexte historique ici est bien important à comprendre pour qu'on puisse saisir toute la signification de ce qui se passe ici. Je vous ai dit que j'allais revenir sur le prophète Jérémie. Vous n'êtes pas obligé de tourner là. Je vais vous lire 2 passages qui se passent à l'époque où est-ce qu'on vient de lire. J'ai déjà entendu des gens « Wow! » dire « Il y avait un réveil sous Josias. » Je ne crois pas. Je crois que Josias est un bon roi, mais je ne crois pas qu'il y avait un réveil. Voici pourquoi. Écoutez ce que ça dit d'abord dans Jérémie chapitre 3, au début de la prophétie de Jérémie. « L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? » Ça, c'est le royaume du Nord. « Elle est allée sur les montagnes élevées, sur tout arbre vert, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. » Quoique j'ai répudié, ça c'est la dispersion d'Israël, j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu ce que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante débauche, Israël a souillé le pays et elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. C'est le commentaire inspiré sur ce qu'on vient de voir dans les chroniques. C'est avec fausseté, c'était opportuniste. Écoutez maintenant, ça c'était chapitre 3, versets 6 à 10. Jérémie 1, 7, 1 à 4, ça nous dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, le temple. » Et là, publie cette parole et dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, donc le royaume du Sud, ok? C'est vraiment ici les mêmes gens à qui on a affaire dans 2 Chroniques 34. « Vous tous hommes de Juda qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Des fausses espérances. Ce qui est arrivé en 5, il dit, wow, on a un bon roi qui revient à l'Éternel, il rebâtit le temple. C'est ça notre sécurité. Tout était dans l'extérieur, pas le cœur qui revenait à l'Éternel, mais dans ses réformes extérieures. Puis dire, ah ben, on a un bon roi, ça veut dire que Dieu va être de notre côté. C'est ça le scénario, c'est ce qui arrivait. OK? C'est clair qu'il y a plus que ce qui frappe à l'œil quand on fait juste lire le livre de 2 Chroniques, lorsqu'on voit la dénonciation du prophète Jérémie qui parle vraiment très spécifiquement de fausseté et d'espérance trompeuse. Je veux dire, ça ne peut pas être plus clair. Le peuple était idolâtre, mais opportuniste. Il ne s'était pas repenti. Il n'était pas contrit de leur péché. Il voulait juste saisir l'occasion de mettre Dieu de leur bord, mais sans se repentir. Mais Dieu dénonce la tromperie et le mensonge à travers son prophète Jérémie. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il veut bâtir sur la vérité. Tu ne peux pas bâtir sur autre chose que la vérité pour que ça soit durable, pour que ça soit de Dieu. Et ici, le temple est une image ça préfigure Christ, hein? La personne et l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qui se passait dans le temple? Il y avait les sacrifices, il y avait les sacrificateurs, Christ, notre grand souverain sacrificateur, Christ qui est le sacrifice ultime. C'était des ombres qui annonçaient ce qui est accompli en Christ. Et Dieu refait une œuvre similaire en ce moment, avec et dans le corps de Christ, en réparant, en rebâtissant son corps malade et divisé, gangréné par la fausseté et des espérances trompeuses qui nous viennent de l'idolâtrie. Pareil, copié-collé, ce qui est arrivé il y a des milliers d'années, on revit ça en ce moment. Un peu comme si on était en cancer phase terminale. Et seulement la vie de Christ insufflée dans ses membres et l'espoir pour non seulement le corps de Christ, mais pour cette planète sur laquelle nous habitons. Parce que la seule espérance dans ce monde, c'est Christ. C'est lui et lui seul. La solution pour le corps de Christ dans l'état actuel dans lequel il est, ce n'est pas des réformes extérieures fausses et trompeuses, mais c'est la révélation de la vie, de la suffisance de son évangile. De Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ça, c'est en contraste avec la mort de l'idolâtrie qui, dans nos églises, se manifeste par du pragmatisme, du légalisme, de la justice propre, la dépendance de soi, la chair, sous différentes formes. Ouais. Et écoutez encore une leçon du livre du prophète Jérémie, au chapitre 5, cette fois-ci, les versets 1 à 5. « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. » Mais quand ils disent « L'Éternel est vivant », c'est faussement qu'il joue. Et vous encore, c'est la même chose qui se répète. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Ils étaient endurcis, ils étaient cautérisés. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Rappelez-vous que Jérémie parle de la gang qu'on vient de lire dans 2 Chroniques chapitre 34. Je disais, ce sont que les petits qui agissent en insensé, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands, les dirigeants, ceux qui étaient haut placés. Je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de Dieu, mais ils ont aussi brisé le joug, rompu les liens. De bord en bord, la société était corrompue, avait abandonné l'Éternel. Je crois qu'on voit dans cette description de la société au temps de Jérémie, toute qu'une description de notre société à notre temps est aussi reflétée dans le corps de Christ. Où est-ce que Dieu, comme dans le temps d'Ézéchiel, avait de la misère à trouver un homme pour faire la différence? Hein, vous connaissez Ézéchiel 22-30 et ces deux versets-là sont en parallèle dans Jérémie. « Je cherche un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. » Les deux prophètes dénoncent la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas recevoir instruction. Il avait le visage dur comme le roc. Il refusait de se convertir. Il était dans l'incrédulité. Il y avait un refus généralisé de croire à l'Éternel. N'est-ce pas ce qu'on voit aussi dans la société? Savez-vous que c'est ça? La raison pour la destruction de notre société et que ça va mal, c'est pas ce que les nouvelles nous disent, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est parce qu'on a rejeté Dieu, puis qu'on a dit, brisons leurs liens, puis c'est notre propre voix qui nous détruit. La parole de Dieu est plus fiable que les nouvelles. C'est ça qui nous donne la réalité de ce qui nous arrive. Et maintenant, on voit qu'il est allé vers les petits, vers les grands, en disant peut-être, non, c'était généralisé dans la société, mais le pire là-dedans, c'était fait sous le couvert de l'apparence de la piété. Il jurait, mais faussement. Et l'heure est à la repentance. Ne pensons pas au monde. L'heure est à la repentance pour le peuple de Dieu. Parce que le jugement commence en ce moment par la maison de Dieu. Et c'est possible seulement lorsque Christ est élevé et qu'il est révélé par sa parole. Donc, la première chose qu'on a vue, c'est le corps de Christ, maintenant la parole de Christ. Dans les versets 14 à 28, on voit la découverte de la parole. Et vous savez que, comme dans Ésaïe 6, comme dans Job 42, Lorsque Dieu se révèle à son peuple, c'est quoi la première réaction? La conviction de péché. C'est pas comme, oh yes, on est donc bon, puis on est beau, puis non, c'est, on tombe sur notre face. Puis il y a une conviction de péché. C'est ce qu'on a vu ici. Il dit, oh, on a péché grandement, puis il a déchiré ses vêtements, il s'est humilié devant l'Éternel, le roi Josias. Parce que oui, il y a des choses extérieures qui s'étaient produites. Il avait fait les réformes, on l'a vu, il y avait l'idolâtrie même, il avait été dans le royaume du Nord, qui avait déjà été déporté, mais qui a été pour aller faire de la purifier là avec le peu qui restait, le reste qui restait dans le royaume du Nord. Mais la parole de Dieu a révélé la réalité intérieure. Il avait besoin de beaucoup plus que juste des réformes extérieures. Il avait besoin de la révélation du réel état de leur cœur devant Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout ce qui est nu est découvert aux yeux de celui de qui nous devons rendre compte. Et donc, la solution ici, face à la révélation de la parole de Dieu, la redécouverte de la parole de Dieu, c'est découvrir la plénitude de l'Évangile. Non seulement il fallait qu'il voit la vie, la suffisance de l'Évangile, mais aussi sa plénitude, c'est-à-dire qu'elle affecte, elle impacte tous les aspects de la vie. La vie personnelle, la vie familiale, la vie ecclésiastique, la vie sociale. L'Évangile doit tout affecter dans une société comme la nôtre. Ainsi, la parole de Christ jette sa lumière sur tous les ténèbres de nos vies afin d'y insuffler la vie de Christ là où il y a la mort. Parce que, vous savez, la Bible nous dit que on a-tu des bons cœurs? Non. Oui, c'est ça. Il dit « Amen » puis il fait « Non, mais c'est ça, on n'a pas des bons cœurs. »
Non.
Le cœur est tortueux au-dessus de tout. Qui peut le connaître? Donc, ça l'oblige, l'intervention de Dieu pour révéler l'état. Parce que sinon, on va se faire désaccroire. On va penser que tout est beau. Vous savez, tout comme Josias, on pourrait se féliciter du fait que il y a des bonnes réformes qui se passent ici dans la maison de Dieu. Il y en a eu qui sont passées ici du temps de Josias avec l'idolâtrie puis le temple et tout ça. On pourrait aussi nous réjouir des choses visibles qu'on voit dans cette église. Il y a plus de monde qu'avant. On est pratiquement deux fois plus. Dieu nous protège contre des intrusions. Dieu est bon. Et même si ces choses font notre joie, c'est pas ça le vrai but. Le but, c'est que Christ soit formé dans chacun de nous à travers ça. Le but n'est pas extérieur, conformité, c'est que Christ soit formé dans nos cœurs, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que on ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Il faut que le Seigneur continue à faire l'œuvre de conviction de sa parole pour ça. Sinon, on va se penser bon, on va s'asseoir sur nos lauriers. C'est ça la tendance humaine. On est tous pareils. Il faut que le Seigneur continue cette œuvre de conviction, de nous garder sur le bout de notre chaise, nous garder dans cette conviction qu'on a besoin de lui. La conviction de la parole par le Saint-Esprit, c'est la clé de l'œuvre de Dieu, parce que c'est comme ça qu'on demeure dans cet état de soumission. Rappelez-vous, puis là, les petits jokers qui sont donc drôles, c'est là qu'on demeure sous l'autorité de Dieu.
Amen.
Il y en a qui dit, hein, sous, t'as parlé d'être sous. Puis... ouais, le gars corny en arrière, il a trouvé ça drôle. On est rendu comme un champ de blé d'Inde dans cette église. On a des gens qui sont pas mal blé d'Inde. Mais c'est important parce que quand Dieu nous montre notre état, c'est là qu'on est. On a le choix, mais par la foi qu'on va aller se réfugier en lui. C'est ça que veut dire demeurer en lui. Écoutez quelques versets, comment ça nous montre que c'est important. « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits,
Amen.
Car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Mm-hmm. »
Écoutez aussi Jean, chapitre 4, versets 5 à 7. « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous.
Amen.
Il accorde au contraire une grâce plus excellente. » C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et c'est dans sa bonté que Dieu nous révèle qui on est pour nous faire grâce. pour nous humilier parce qu'on est orgueilleux et on va tout le temps avoir tendance à se penser bon. Moins pire qu'un autre, puis tu sais, on se compare, puis la folie du cœur humain. Que Dieu nous protège de toute forme d'orgueil, surtout les plus subtils, parce que c'est elles les pires. Que Dieu nous protège de toute forme d'orgueil qui pourrait s'immiscer dans nos cœurs et nous plonger dans l'incrédulité et dans l'égarement des impies. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité.
Amen.
2 Pierre chapitre 3, 17-18. Puis attention, parce qu'il y en a qui tordent les Écritures. C'est en effet... Ici, je reviens avec 2 Pierre, mais au verset 16, on recule un peu avec ce que je viens de lire. Donc, ça parle de Paul qui, dans toutes ses lettres, il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Que la parole de Dieu soit prêchée fidèlement, vécue fidèlement, pour que le Seigneur puisse faire son œuvre dans son corps avec la conviction que sa parole amène par l'Esprit du Dieu vivant. C'est la base pour le point maintenant tellement important qui conclut notre message puis le texte. Dans les versets 29 à 30, non seulement on a vu le corps de Christ avec le temple, la parole de Christ qui a été redécouverte en faisant le ménage du temple, mais aussi on voit la relation avec Christ, avec les derniers versets. Puis là, j'aimerais qu'on les lise. Versets 29 à 33. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les lévites et tout le peuple depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade, il traita alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique ses paroles. Ça, c'est l'engagement personnel de Josias devant l'Éternel. Verset 32. Il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Verset 33. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu, pendant toute sa vie. Ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père.
Amen.
Ici, quand ça nous dit qu'il a découvert le livre de l'Alliance, puis qu'il a fait un... Spécifiquement, ça nous réfère... Quand les Juifs parlaient du livre de l'Alliance, ils parlaient de Exode 21 à 25. Parce que cette section-là, il est traité de la responsabilité individuelle, sociale et des affaires d'État du peuple élu de Dieu. C'est vraiment, techniquement, c'est ce qui était appelé. Et c'est à la lumière de ces chapitres-là, Exode 21-23, qui était fait cette alliance. Et c'est exactement dans ce domaine que Judas se trompait en ayant confiance dans le fait d'avoir retrouvé la loi, la bonne loi de Dieu, mais en abandonnant ses vérités, ses principes fondamentaux, comme les pharisiens que Jésus dénonce, ils oubliaient, ils mettaient de côté la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer les premières choses, mais sans négliger les autres. Donc, cette situation historique ici révèle que la nature humaine a une propension à se tromper soi-même en se convainquant. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. On a cette tendance à se tromper nous-mêmes en nous convainquant que la parole de Dieu équivaut à la relation avec Dieu. Tandis que la parole de Dieu est un moyen pour lequel et vers lequel on développe notre relation avec Dieu. Mais la parole de Dieu sans la relation avec Dieu, c'est une tromperie. Et c'est ça qui est arrivé ici. Il y avait la parole de Dieu, mais il n'y avait pas la relation avec Dieu. Ils ont été contraints par... Il n'y avait pas ce désir-là, ça ne venait pas d'un cœur qui avait été touché par l'Esprit du Seigneur de revenir à lui. Certaines personnes ici sont assises un peu comme Israël, certains étaient assis dans la chair de Moïse, certains sont assis dans la bénédiction familiale et du milieu chrétien. Et ça sert de base pour une fausse assurance d'avoir la parole de Dieu sans la réalité d'une relation avec Dieu.
Ouais.
Soyons très sobres avec ça aujourd'hui. Tout le monde, grand et petit, qu'on ne tombe pas dans cette tromperie. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est la solution pour la relation avec Christ à ce que cet Évangile opère une réelle et vivante restauration. La restauration de l'Évangile. Dieu ne voulait pas juste une réforme. Dieu ne voulait pas juste que tout le monde fasse un beau ménage dans le temple. Il voulait restaurer les cœurs, il voulait restaurer la relation de son peuple avec lui-même. Et la parole est un moyen pour ça, pour les amener à lui. La parole était la conviction qui devait les amener à lui. C'était pas la fin, c'était le moyen pour le conduire à lui. Peut-être que tu es ici et ton premier et plus grand besoin ce matin. J'ai référé tantôt aux premières parties de l'Évangile. Que Jésus est mort et ressuscité pour que tu te confies en lui pour avoir la vie. Parce que tu n'es pas encore rendu à la vie. Tu es encore dans tes offenses et tes péchés. Ne te confie pas dans le fait que tu connais la parole, que tu es entouré de chrétiens qui connaissent la parole. Tu dois la recevoir pour toi-même. Et ça, mes amis, c'est quoi qui nous fait savoir la réalité de ça? C'est la conviction de péché. Est-ce que tu t'es reconnu un jour, tu as vu « Je suis coupable devant Dieu. Je me tiens dans le besoin de sa grâce et c'est lui seul qui peut me sauver. C'est pas une religion, c'est pas mes efforts, mais c'est Jésus seul avec son œuvre accomplie au calvaire, lui qui est maintenant vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Si c'est ton cas, reste pas dans cet état de perdition, reste pas aujourd'hui dans l'incrédulité, mais place ta foi en Christ et lui seul pour le salut de ton âme. Et pour les autres ici qui appartenaient à Jésus-Christ, vous savez, c'est quoi notre plus grand besoin? La deuxième moitié de l'Évangile. Nous sommes morts avec Christ et vivants en lui. Et ça, ça veut dire quoi? C'est par la conviction du Saint-Esprit. Reconnaître. Et Paul a dit ça, c'est tellement un verset important de la parole de Dieu. Car je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Arrêtez d'essayer de mourir à vous-même. C'est la voie pour la vie redondante. La vie qui nous garde en dehors de la vie abondante. Si vous essayez vous-même, si le fardeau est sur vos épaules, parce que vous essayez de faire ce que Dieu a déjà fait. C'est redondant, puis c'est l'échec après échec, puis la culpabilité, puis se mettre un fardeau sur les épaules qu'on n'a pas besoin d'avoir. Pourquoi? Parce que ça nous dit, dans Romains, puis méditez, lisez Romains 6, c'est tellement important, mais je vous donne juste le verset 11. Considérez-vous, par la foi, le voyez-vous là, comme mort au péché. Pas qu'il faut mourir au péché, non, c'est un fait. Vous êtes mort au péché et comme vivant pour Dieu. C'est le fait de l'Évangile, c'est le fait pour tous les enfants de Dieu. Nous sommes morts avec Christ et vivants. On n'a pas besoin d'essayer de mourir, on l'est déjà. Il faut vivre à la lumière de Dieu, il faut l'accepter. Nous qui sommes déjà morts et rendus à la vie, arrêtez d'essayer. Mais reposez-vous par la foi dans ce que Christ a fait. Écoutez aussi Romains. Chapitre 8, versets 2 à 4. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Puis on parle d'incarnation à ce temps-ci de l'année. Écoutez, quel beau verset sur l'incarnation. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voici où je veux amener ça ce matin, à la fin du verset 33. C'est une phrase qu'on voit des fois dans les livres historiques. Il y a des choses, des fois, des patterns qu'on voit qui se répètent dans les livres historiques, mais ici, on voit avec le roi Josias. Ça dit pendant toute sa vie, la vie du roi Josias, la fin du chapitre, verset 33. Pendant toute sa vie, ils ne se détournent, ça c'est le peuple, ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Pendant toute la vie de Josias. Et certainement, ça montre comment c'est une bénédiction, l'influence d'un homme de Dieu, d'une personne spirituelle, mais cette influence est limitée à l'authenticité du peuple à eux-mêmes suivre ce Dieu-là. Si Dieu enlevait la figure d'autorité, le leader spirituel dans ta vie, qui est-ce que tu suivrais? C'est ça Dieu qui révèle l'Évangile à son peuple. C'est-à-dire que même si l'influence, le leader, aussi bon et bénéfique soit-il, même s'il n'est pas là, ultimement celui que nous suivons, c'est Dieu, en Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Parce que mes amis, c'est ça que l'Évangile nous révèle, que Christ est notre vie, que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous êtes tous venus en auto, en tout cas, pas mal tout le monde, vous êtes venus en auto, pas nous autres, mais bon, vous n'avez pas besoin, ça serait plus compliqué de venir en auto que venir à pied pour nous, là. Mais, vous savez, Dieu, dans sa grâce, nous a donné ceux qui sont sauvés ici. Dieu nous dirige, nous a donné sa direction, puis pour prendre le parallèle avec un auto, il nous dirige dans le parcours chrétien, mais même on peut pousser le parallèle. C'est lui qui est au volant, c'est lui qui est l'essence qui est dans la tank, c'est lui tout, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, la vie chrétienne, c'est pas Jésus qui m'aide à, mais Jésus qui est ma vie, sans quoi je suis rien. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça l'Évangile. C'est ça de se considérer comme mort au péché et vivant pour Dieu. C'est pas Jésus plus, c'est si j'ai Jésus, j'ai rien, je ne suis rien. Il est ma vie. C'est ça l'Évangile, c'est ça retrouver notre vraie nature qui a été perdue en Éden. C'est ce qui a été volé par le péché. Mais Christ est venu le rétablir et quand on a cru à l'Évangile, qu'on l'a reçu, qu'on marche selon cet Évangile, c'est ça qui est restauré dans la vie des enfants de Dieu. Alors mon défi, venons à lui dans la plénitude de la foi. Comme ça nous dit dans Hébreux chapitre 10, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une bonne conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons tout pleinement en Christ. Enfants de Dieu, je vous invite à exprimer votre foi par la louange, l'action de grâce pour ses faits. Si vous êtes ici, vous n'avez pas besoin de mourir à vous-même, vous êtes déjà mort avec Christ. Vous n'avez pas besoin de vivre de votre mieux. Il vous a rendu à la vie. Laissez simplement la vie de Christ s'exprimer à travers vous. Et si vous n'êtes pas sauvé, rendez grâce à Dieu que la porte du salut est encore ouverte. Qu'aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et que vous devez entrer. Vous êtes contraints. C'est pour moi qu'il dit, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'Évangile, y croire, c'est un ordre. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci que tu nous révèles comment tu n'es pas un petit Dieu dans un coin qui a juste quelque chose à dire une fois de temps en temps. Quand tu parles, tout le monde doit se taire, tomber sur sa face, parce que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Merci Seigneur dans ta bonté, encore une fois, de nous avoir parlé ce matin. Et ma prière, c'est simplement qu'on ne se trompe pas nous-mêmes avec la fausseté des espérances trompeuses. Mais Seigneur, qu'on s'humilie devant toi, que si quelqu'un ici n'est pas sauvé, qu'il arrête de se tromper, qu'il arrête de se donner une fausse espérance, qu'il a besoin de la vie de Christ, pas d'une religion, pas des apparences, mais de la réalité. Et pour nous, tes enfants aussi, Seigneur, on ne veut pas la vie redondante d'essayer, puis de tomber, puis d'essayer encore plus fort, puis de retomber encore plus fort, mais on veut la vie abondante, par la foi, vive à la lumière du fait que oui, on est mort au péché, vivant pour Dieu. Seigneur, bénis ce temps de réponse à ta parole. Bénis chacun ici. Accomplis ton œuvre. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.